Alors, donc on est avec Marc et Philippe. Merci d'être venus et on va parler avec vous de la lutte du Larzac et aussi des liens que ça a pu faire pour vous qui y avez un peu participé, si on a bien compris, avec les débuts de Bécourt. Du coup, ma première question, c'est vous êtes de Millau, vous êtes du groupe de Millau tous les deux, c'est ça?
Ouais.
Et vous étiez Respo et...
Si tu veux, ce que je peux raconter, c'est comment je suis rentré dans le scoutisme. Sur Millau, il n'existait pas de groupe éclaireur de France à cette époque-là, tout au moins à la branche éclaireur. Mes parents, qui étaient plutôt d'origine catholique, ont essayé de m'inscrire sur les scouts, il n'y avait pas de place. Donc, ils ont été voir le pasteur et ils m'ont inscrit aux éclaireurs unionistes, où j'ai retrouvé Marc.
Et parce que moi, par contre, donc, j'ai commencé très tôt, j'avais 6 ans, 7 ans, et j'étais louveteau unioniste.
Alors, et du coup, donc, vous êtes de Millau, donc vous n'étiez pas très loin du plateau du Larzac. Est-ce que vous, y avez pris une part à cette lutte-là?
Donc en réalité, si tu veux, la lutte du Larzac a démarré plus par les gens de Millau que par les paysans. C'est quelque chose qui est assez inconnu. Justement, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. C'est qu'en réalité, les premières manifestations et tout ça, il n'y avait pas de paysans.
Alors en fait, en 71, il y a un secrétaire d'État à la Défense qui s'appelait Fanton, qui a déclaré que le camp militaire du Larzac allait être porté de 3000 hectares à 17 000 hectares pour les besoins d'entraînement des troupes, et notamment tirs d'artillerie, enfin, etc. Parce que grand espace, et voilà. Et en fait, tout le monde a appris, notamment les paysans du Larzac, ils ont appris à la télé, en regardant la télé, qu'ils allaient être expulsés probablement, vu que pour étendre le camp de 3000 à 17 000 hectares, ça passait par chez eux, quoi. Donc, et en fait, tout le monde a appris ça, mais comme ça, par la télé, sans aucune préparation, sans qu'il y ait un débat public avant. Et les paysans, sur le coup, ils n'ont pas réagi. C'était des gens qui étaient catholiques, qui allaient à la messe le dimanche, qui ne travaillaient pas le dimanche parce qu'il fallait aller à la messe. C'était des gens qui étaient... très respectueux du pouvoir en place. C'était des gens qui étaient à droite et qui ne pensaient pas une seconde devenir des contestataires, quoi. Et nous, les jeunes de Millau, on était plein de jeunes à Millau qui, d'emblée, on a dit non, c'est pas possible, non au camp. Ça a été notre slogan.
Et nous,
qu'on a brandi dès le lendemain de cette annonce. Et on était traités de provocateurs par les paysans eux-mêmes, qui disaient « Attendez, c'est pas vous qui êtes concernés, c'est nous ». Or, nous, et entre autres nous en tant qu'éclés aussi, le Larzac, c'était notre terrain de jeu. Et ça passait pas. En plus, moi, de mon éducation protestante que j'avais rejetée, que je... contestait complètement, faisait de moi en même temps un pacifiste et un antimilitariste. Donc l'annonce d'extension du camp militaire, ça a été quelque chose qui m'a mobilisé, mais tout de suite, quoi. Et le groupe de Millau a suivi contre l'extension du camp militaire. On nous prive de l'endroit où on est heureux, quoi.
Le Larzac est arrivé que dans un brouhaha général. Il faisait partie d'un élément d'un brouhaha général. Et donc, sur Millau, si tu veux, sous l'influence des Mao, donc de Marc et compagnie, ils ont créé un regroupement politique sous un nom qui était un nom national des Mao, qui s'appelait le Secours Rouge, et qui, en réalité, sur Millau, est devenu une espèce d'assemblée de tous les gens de gauche, c'est-à-dire la gauche du PS... Le PSU, qui à l'époque était un petit peu, si on peut le comparer syndicalement, à Sud, tu vois, un truc où il y a du mouvement, quoi. Il y avait des chrétiens de gauche, il y avait tout ça, qui sont regroupés dans ce truc, un peu à l'initiative des Mao, c'était rigolo, mais ces Mao-là, à cette époque, c'était des Mao de Millau, c'était Marc, c'était des gens comme ça. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés dans ces réunions, et c'est là où, en quelque sorte, on a préparé le Larzac. c'est que à ce moment-là, il y avait au bout du Larzac, il y avait l'armée qui faisait des essais dans un tunnel de l'ancienne voie de chemin de fer qui traversait le Larzac. Il faisait des essais d'explosifs. Et donc, il y avait quelqu'un qui était au PSU qui s'appelait Robert Siméon, qui était à ce moment-là, qui a été un peu berger sur le Larzac, qui est un ancien typographe parisien, etc., etc., et qui depuis habite à Millau depuis, qui était le représentant du MDPL-MCAA, voilà. Donc contre l'armement atomique et tout ça. Et disons, ça nous a servi de couverture pour entamer le démarrage de l'affaire du Larzac. C'est-à-dire la première manifestation de Larzac qui a eu lieu entre la ferme de l'hôpital et la cavalerie. Ça a été la couverture, ça a été le MDPL, l'MCA.
C'est ça, oui.
Donc en fait, ce groupe-là, c'était à la fois un endroit où vous vous réunissiez déjà avant
l'annonce de l'élection
et qui vous a servi ensuite à enclencher le début de la mobilisation.
Disons qu'on a été d'autant plus réactifs qu'on était déjà prémobilisés sur le thème de l'antimilitarisme, de l'opposition... au nucléaire, en fait.
Et puis l'opposition, surtout au pouvoir, qui était encore un pouvoir, c'était encore, si tu veux, après 68, le gaullisme a continué, avec un tout petit peu de Gaulle l'année d'après, et puis ensuite Pompidou derrière.
Okay.
Le démarrage de la lutte du Larzac a aggloméré pratiquement toute la ville à un moment où la municipalité était gaulliste. Et donc, à ce moment-là, si tu veux, il s'est créé toute une ébullition qui regroupait bien plus que des gens politiques, qui regroupait toute la population, finalement, contre ce truc qui arrivait et qui allait prendre le terrain où le dimanche, les gens allaient ramasser les champignons, des oreillettes, le pleurote du panico. C'était une institution sur Millau. Donc, Bon, la municipalité, évidemment, a été prise en porte-à-faux, ça hurlait de partout. Quand l'État a décidé ce projet d'extension du camp, ils se sont basés sur des études qui dataient de plus de 10 ans.
En termes de fréquentation du Larzac, c'est ça, en termes de qui était dessus.
Qui était dessus. Sauf qu'entre-temps, il y avait eu un changement complet de génération. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des jeunes qui avaient repris l'exploitation de leurs parents, donc des locaux, et d'autres jeunes, certaines de la région, d'autres qui venaient d'ailleurs, qui avaient entre autres fait l'école des bergers de Fontainebleau et qui s'étaient installés et tout ça. Et il y avait aussi d'autres gens. Il y avait un ancien militaire, Tarlier, qui avait acheté une grosse propriété et qui essayait de faire de l'agriculture plus industrielle que ce que faisaient les autres.
Et qui, lui, était un rapatrié, je pense, d'Algérie.
Qui venait du Congo, qui avait été capitaine dans l'armée, etc., etc. Alors, donc la lutte du Larzac s'est lancée, si tu veux, le mythe Larzac s'est lancé sur un agglomérat qui était complètement
hétéroclite.
Tu retrouvais des cathos, l'évêque de Rodez s'était prononcé contre l'extension du camp, dont les curés étaient contre, il y avait des curés dans la lutte, il y avait l'extrême gauche qui était, tout ça était dans un même, les paysans et tout ça était dans un agglomérat, et c'est ce qui a fait finalement le... A posteriori, on peut dire le résultat de la lutte. Ça crée une espèce de mythe qui s'est étendu en France à une époque où la presse officielle était complètement contrôlée par l'État, donc ne parlait absolument pas de ça, où les journaux régionaux n'en parlaient absolument pas, personne n'en parlait, mais par contre, dans tout le monde underground, tout ça s'est diffusé donc, par l'intermédiaire de tous ces mouvements.
Et en fait, ce qui a été très important, justement, ça a été la création des comités Larzac. Voilà. Dans toutes les villes, même petites, se sont créés des comités Larzac en soutien à la lutte et qui rassemblaient des gens de tous horizons politiques et intellectuels ou non, et de pensées diverses, etc. Et l'action des comités Larzac a été très déterminante parce que ça a répandu vraiment ce feu qu'il y avait autour de l'extension partout en France.
Et alors du coup, c'est une mobilisation, c'est une lutte qui dure 10 ans, en gros. Vous avez vécu, vous avez grandi pendant ce temps-là. Est-ce que ça a eu une influence sur vous? Qu'est-ce que ça a changé dans vos pratiques, vos réflexions, votre vie? Est-ce que ça a changé des choses?
Oui, bien sûr. Mais ça veut dire, si tu veux, que c'était quelque chose... J'ai été pendant 10 ans au comité de mis à voie de défense du Larzac. Mmh. Alors, il s'appelait comité mis à voie de défense du Larzac parce qu'il se comptait comme partie prenante de la lutte. C'est-à-dire, ce n'était pas un comité Larzac, comme dit Marc, oui, qui était des comités de soutien. Nous, sur Millau, on estimait qu'on faisait partie de cette lutte et que c'était notre territoire, au même titre que les paysans. Mmh. Mais pas en dessous. Mmh. Et donc... ça a été longtemps une bagarre pour essayer de nous imposer face à eux, d'être reconnus comme...
Part intégrante
de la lutte, ce qu'eux ne voulaient pas, parce qu'eux, ils avaient bien conscience de ce mythe. Parce que je parlais tout à l'heure de Tarlier, cet ancien militaire qui a été un peu un stratège de la lutte des paysans. Lui, il avait un sens politique, il avait tout ça. Donc, il a posé un cadre qu'il a essayé de faire le plus large possible et tout ça, justement pour intégrer toutes ces ambiguïtés. Et donc, eux, ils voulaient maîtriser tout ça pour contrôler, avec cette idée de partir aussi sur... non-violence, alors qu'il y avait beaucoup d'éléments dans la lutte qui n'étaient pas spécialement des non-violents. Il faut voir qu'à cette époque-là, il y a eu des explosifs, il y a eu des trucs qui ont sauté. À côté de Bécourt, le viaduc de Vézouillac, qui est un autre hameau de la commune de Verrières, où il y avait un viaduc, les Maos ont fait sauter le viaduc. Tu vois, il y avait des explosions un peu partout. Et dans les deux camps, il y a une famille de paysans du Larzac, les Guiraud, à la Blaquière. Leur maison, ils avaient 7 enfants et il y a des partisans du camp qui ont foutu une bombe et toute la famille a failli mourir. Mmh. Donc c'était, tu vois, c'était pas que non violent. Mmh. Mais par contre, les paysans, pour agglomérer le maximum de monde, pour avoir l'église derrière eux, pour avoir tout le monde, se sont lancés dans cette idée de non-violence et ont créé ce mythe des paysans du Larzac qui est devenu un truc extraordinaire, quoi, et qui reste maintenant, l'image d'une lutte incroyable, mais qui était vraie aussi, qui était une réalité.
C'était quand même devenu le support essentiel. Il y a eu évidemment des blessés dans les manifs, il y a eu beaucoup de gens qui ont été réprimés, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que peut-être après dans l'évolution qu'il y a eu, et tous les recours ont été utilisés. Et quand on est arrivé en 80, alors là peut-être je résume un peu vite, mais pour fixer un peu l'évolution de la chose, quand on est arrivé en 81 avec l'élection de Mitterrand, qui avait mis dans son programme, bien qu'il se soit fait molester lors d'une manifestation sur le Larzac, il avait mis dans son programme que s'il était élu, le projet d'extension serait annulé du jour au lendemain, ce qui a été le cas. En 81, il faut se dire un truc, c'est que les paysans et tout l'arsenal juridique qui avait été développé pour les aider étaient arrivés un peu au bout de toutes les procédures possibles, et que si Mitterrand n'était pas passé en 81, je ne pense pas que ça aurait tenu le coup.
On n'en pouvait plus.
On était au bout de la lutte. Et franchement, là, on peut tirer le chapeau à Mitterrand pour ça, parce que ça, il l'a réussi.
Après l'élection, on a eu toute une période là où est-ce qu'il va respecter, est-ce qu'il ne va pas respecter, où on était tous... on était bien contents qu'il passe, parce que la gauche n'avait pas été au pouvoir depuis une éternité. Mais de l'autre côté, on avait cette angoisse qu'ils ne tiennent pas cette promesse.